L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine d'info locale, l'un dans l'autre. Bonjour Perrine.
Bonjour Elsa, bonjour à toutes et à tous.
100 pour un toit. Derrière ces chiffres, c'est bien une association qui se mobilise pour un réseau de solidarité pour venir en aide aux personnes sans-abri dans l'Ain. Son objectif est clair, offrir un toit, une écoute et un accompagnement à celles et ceux qui en ont le plus besoin. L'association a été créée en 2016 pour aider les familles de migrants à se loger dignement. C'est donc 100 personnes qui cotisent pour loger une famille. Le principe est simple et a donné son nom à l'association. Mais pour en parler, le mieux, c'est d'écouter ses bénévoles. Bernadette, Jacqueline et Carole nous racontent leur engagement.
On les écoute juste après les brèves.
L'un dans l'autre, les brèves.
Changement de nom pour l'UFC Que Choisir de l'Ain.
À l'occasion de ses 75 ans, l'UFC Que Choisir de l'Ain change d'identité et devient Que Choisir Ensemble de l'Ain. L'association met en avant l'action collective comme levier pour défendre les consommateurs et obtenir des résultats concrets à l'échelle locale et nationale. Cette évolution s'appuie sur plusieurs actions marquantes comme les achats groupés d'électricité, les mobilisations citoyennes ou encore le traitement de litiges. Dans l'Ain, l'association tient 10 permanences et a traité 278 dossiers en 2025.
Si le nom évolue, l'émission reste inchangée.
Informer, accompagner et défendre les consommateurs tout en appelant à la mobilisation de nouveaux bénévoles.
Ainsi, l'association poursuit son engagement,
notamment participant aux élections des représentants de locataires.
Soigne tes droits, 150 structures mobilisées en Auvergne-Rhône-Alpes.
À partir du 28 avril, la campagne Soigne tes droits revient dans la région à l'occasion de la Journée européenne des droits en santé. Plus de 150 établissements sanitaires et médico-sociaux se mobilisent pour informer le public sur ses droits, accès aux soins, choix du médecin, consentement, gestion de la douleur ou directives anticipées par exemple.
Dans l'Ain, plusieurs structures participent à cette mobilisation.
Comme le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, celui de Bugey-Sud à Belley, ou encore le centre psychothérapeutique de l'Ain. Des stands et temps d'échange y sont proposés, avec cette année un focus sur le rôle des représentants des usagers, méconnus mais essentiels pour accompagner les patients et leurs proches.
En effet, si la connaissance des droits progresse, des lacunes persistent.
Certains droits restent mal identifiés, notamment la possibilité de refuser un traitement ou de demander une indemnisation. Cette campagne vise justement à informer et rendre chacun acteur de sa santé.
Pollution aux FAS, l'État accélère en 2026.
Le 24 avril, l'État a présenté sa feuille de route 2026 en Auvergne-Rhône-Alpes pour lutter contre la pollution aux PFAS. Pilotée par la préfecture de région, elle fixe quatre priorités. Réduire les rejets à la source, garantir une eau potable conforme, renforcer les contrôles alimentaires et soutenir la recherche.
Parmi les points clés, 41 sites industriels fortement émetteurs devront réduire leurs rejets. L'objectif de suppression d'ici 2030.
La surveillance de l'eau potable couvre déjà 96% de la population, avec plusieurs situations de non-conformité résolues, notamment à Ternay et Rumilly. Des recommandations locales de non-consommation de produits de jardin privés ont toutefois été émises dans certains secteurs, notamment au sud de Lyon, illustrant les enjeux sanitaires encore présents. L'État entend poursuivre les contrôles, élargir la surveillance et développer des solutions innovantes avec un objectif affiché, mieux protéger durablement la santé des populations face à ces polluants persistants.
Conférence pour décrypter l'endoctrinement.
Jeudi 7 mai à 18h30, Patrick Pauget, auteur du roman Barricade, démontrera les mécanismes d'endoctrinement et les similitudes entre les situations actuelles et historiques au cours d'une conférence, salle Alphonse Daudet, 21 rue de la Croix-Blanche à Bourg-en-Bresse, organisée par le Front antifasciste.
L'un dans l'autre, l'interview.
À l'automne prochain, 100 pour un toit va fêter ses 10 ans cette année. L'occasion pour l'association de se raconter grâce à un film qui sera projeté, d'une expo photo ainsi qu'avec une pièce de théâtre qui sera créée avec des personnes hébergées et des donateurs. Des projets artistiques pour définir ce que veut dire avoir un toit au-dessus de sa tête ou encore pour réfléchir sur la notion de maison. Mais celles qui parlent bien aussi de cette association, de son histoire, de ses rencontres, ce sont les bénévoles. Nous avons rencontré invités Jacqueline Bria-Fraissinet, représentante légale de 100 pour un toit 01, Carole Gerbeau et Bernadette Perrault, toutes deux militantes. Et cette dernière nous explique comment tout cela a commencé.
C'est une histoire qui s'ancre sur le territoire de Bourg-en-Bresse sur plusieurs années. Un collectif s'était constitué autour de la question des personnes qui dormaient à la rue. Ces personnes étant des exilés qui venaient demander l'asile en France et l'État abandonnait, contrairement à ce qu'il devait faire, et il ne les hébergeait pas. Donc il y a tout un groupe de personnes sensibles à la question de l'accès aux droits et puis sensibles à la question tout à fait humaine, qu'il y a des choses qui ne se font pas, voilà, de laisser des gens dehors. Et au fil du travail, ça devenait récurrent, hein, les squats, les expulsions de squats, et on voyait des familles balader comme ça, de lieu en lieu. Et puis, à un moment donné, s'est installée une centaine de personnes dans les hangars d'Emmaüs, qu'on a appelé le bidonville, les cabanes, où la situation était quand même très préoccupante. Un travail avec l'État a démarré, donc avec Emmaüs, le propriétaire, la fondation ex-fondation Abbé Pierre, donc maintenant Fondation pour le logement, et puis des opérateurs du territoire, le collectif Solidarité Migrants, et s'est construit des réponses. L'État en a construit, et puis ce qu'on appelle la société civile a construit la sienne, c'est-à-dire 100 pour un toit, parce qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient fatiguées de voir des personnes aller les uns chez les autres. Et puis, il y avait des hébergeurs solidaires et des familles qui étaient hébergées depuis plusieurs mois, voire années, chez des particuliers, ce qui était très lourd pour les deux parties. Et avec des personnes qui disaient « Mais moi, je veux bien, je ne peux pas héberger chez moi, mais je veux bien contribuer à la location d'un appartement. » Et c'est comme ça qu'est née l'idée de se cotiser pour payer un logement, pour que une famille puisse être autonome et sortir d'habiter chez quelqu'un. Voilà, voilà, d'avoir un toit à soi.
Grâce à l'association Dans l'Ain, aujourd'hui, combien de logements sont accessibles ?
Aujourd'hui, nous avons 19 logements sur différents sites, Bourg-en-Bresse, Ambérieu, Oyonnax, qui sont ce qu'on appelle les sites historiques. Et plus récemment, création d'un site à Gex, dans le pays de Gex, et dernièrement à Hauteville. Donc 19 logements au total qui nous permettent d'accueillir notamment des familles et des personnes sans droit au logement. Donc, on a 11 couples avec enfants hébergés. On a 3 femmes seules avec enfants, 1 couple sans enfants, 3 femmes seules et par ailleurs 4 jeunes majeurs qui sont en colocation dans un appartement. Et on soutient financièrement une autre famille. Donc, au total, on met ainsi à l'abri dans un logement digne et décent 76 personnes, 32 adultes et 44 enfants ou jeunes majeurs.
Et comment 100 pour un toit, j'ai une question au niveau du maillage, comment vous rencontrez ces personnes qui sont dans le besoin ?
C'est quelque chose qui fait partie de l'identité de 100 pour un toit. Parce que comme l'expliquait Bernadette, on est né de cette société civile qui s'était mobilisée et qui, à un moment donné, a repris langue avec les services de l'État ou les services de la mairie pour avancer. Mais cette société civile, elle s'était déjà réunie dans ce collectif de solidarité avec les migrants, qui s'appelle le CSM. Ce collectif, il existe depuis 2012 et il a été un peu le creuset de toutes les idées dont on a pu débattre pour sortir de ces situations inextricables de personnes à la rue. Et du coup, on les a rencontrés à ce moment-là, les personnes, déjà. Parce que les cabanes chez Emmaüs, dont parlait Bernadette tout à l'heure, il y avait beaucoup de personnes, ils étaient...
C'est allé jusqu'à 100.
Voilà, c'est allé quand même jusqu'à 100 personnes qui occupaient ces cabanes. Et du coup, là, on a noué une histoire avec ces personnes, où on a mené nos réflexions pour aboutir à des solutions concrètes avec eux. Tout le temps. Et donc, on veut garder cette façon de faire. On n'est pas une prestation de service, on n'a pas une liste d'attente. On rencontre les gens, on les rencontre relativement facilement parce que ces personnes sont oubliées de tout et donc elles sont sans droit. Et donc, on est vigilant et on les rencontre. Et c'est à partir des rencontres et des histoires qu'on noue ensemble que nous construisons une solution. 100 pour un toit, c'est 100 fois 6 euros pour un logement. Et bien, ça s'est fait beaucoup de fois puisqu'on est à 19 logements. Et ça continue de cette manière-là. On rencontre les personnes sur le terrain, en fait, le terrain de l'exclusion.
Au-delà des logements, pour votre association, c'est quoi aujourd'hui les défis ?
Après, nos défis à 100 pour un toit, je crois que c'est vraiment... C'est pas trouver, héberger tout le monde. On sait qu'on n'y arrivera pas. Et puis, c'est le rôle de l'État. Mais c'est à travers notre action, conduire un plaidoyer... Et construire des choses avec les personnes hébergées et avec les donateurs, rendre visible ce problème. Et voilà, c'est pour ça que bon, on est bien content d'être à la radio pour faire connaître 100 pour un toit, à la fois pour rechercher de l'argent, bien sûr, mais aussi pour indiquer que il y a une autre voie qui est possible et que l'hospitalité, c'est quelque chose à cultiver si on veut garder une société humaine.
Et solidaire ?
Et solidaire, oui, parce que la visibilité qu'on veut obtenir, c'est parce que nous, on est témoins, on est les premiers témoins des conditions lamentables dans lesquelles ces populations sont mises. Et que cette société solidaire dont vient de parler Bernadette, elle est absolument inévitable à mettre en place si on veut que le monde avance correctement. C'est-à-dire que ce qui fait société, c'est toutes les personnes qui sont là au moment où on est tous ensemble. Et ces personnes n'ont pas le droit au travail, alors que si elles avaient le droit au travail, elles ne réclameraient pas un logement pris en charge par l'État ou par 100 pour un toit. Elles seraient tout à fait autonomes et elles prendraient leur place de citoyens au sein de tous les autres, au sein du groupe formé par tous les autres. Et c'est exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire montrer qu'on exclut des gens, que quand on les exclut, ils ont des conditions de vie lamentables, y compris pour leurs enfants, alors que quand ils sont logés, eh bien, il n'y a aucun autre souci que leur volonté d'avancer et d'avancer avec tous ceux qui les entourent. C'est vraiment faire cette société à la fois solidaire, mais tout simplement société. On ne peut pas laisser des gens sur les trottoirs dans une société qui se veut digne d'elle-même.
Plus largement, quel regard portez-vous sur l'évolution de la solidarité en France face aux questions migratoires ou aux questions de précarité ?
Moi, je constate que... de la place où je suis, enfin, puis d'autres, que la population française, elle est plutôt solidaire. Et qu'il y a un très grand écart entre ce qui se passe sur le terrain, et puis ce que la population souhaite. Hein, la population, elle souhaite vivre tranquillement, en paix, à peu près comme toute la terre entière, et entre ce que les médias, les grands, et certains hommes politiques veulent instrumentaliser cette affaire, entre guillemets, migratoire, pour en faire un outil de propagande, mais qui n'est pas du tout réaliste. Et on s'aperçoit que les personnes, enfin nous, on a été très étonnés quand on a créé 100 pour un toit, que dès la première réunion et sans qu'on ait fait de publicité, il y ait 100 personnes. Et qu'on atteint, sans faire de publicité, que du bouche à oreille, un réseau de 800 donateurs. Voilà, on a à peu près rien fait pour se faire connaître. Voilà.
Au-delà du principe de la cotisation par des donateurs, l'association veut aussi engager la réflexion sur les questions sociétales autour de la migration.
Ce sujet, il est central, en fait, parce que, encore une fois, ce sont les humains qui font société, les humains de partout. Et donc, Les différents gouvernements dont on vient de parler, ou les grands médias, en font un sujet principal tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais nous, nous en faisons un sujet principal à l'envers. C'est-à-dire que nous voulons absolument rendre visibles toutes ces personnes qui, à un moment donné, se posent quelque part, désirent vivre, désirent éduquer leurs enfants, désirent partager des actions militantes ou pas, des actions associatives, oui. Et que on sent bien que c'est là que le nœud il est. Parce que si vous ne faites pas ça, j'aime bien citer cette citation, je le fais tout le temps, d'Angela Davis, elle disait « n'importe quel gouvernement, qu'il soit de gauche, de droite, du centre, qui ne ferait pas société avec les humains qui habitent son territoire, va dans le mur. » Et c'est, pour nous, c'est l'évidence. Il faut avancer tous ensemble. Et c'est pour ça qu'on veut cette visibilité. Pour nous, c'est central aussi.
On remercie Jacqueline, Carole et Bernadette pour leur témoignage. Aujourd'hui dans l'Ain, 100 pour un toit, c'est 800 donateurs réguliers. Mais l'association a toujours besoin de nouveaux donateurs pour un engagement sur 2 ans. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur leur site internet www.100pour-un-toit-01.org dans la rubrique « Rejoignez-nous ».
Vous écoutez L'Ain dans l'Autre,
le mag d'info locale
sur Radio B.
L'Ain dans l'Autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Elsa.
Merci Perrine et merci à vous pour votre écoute.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'infos locales.
Restez bien à l'écoute des bonnes ondes de Radio B.
En ligne ou sur 90 FM. L'Ain dans l'Autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.